Il est 18h à Niamey. Merci d'écouter le studio Kalangou. Tout de suite à Le Journal en français avec Nafissa Dom Sirfou. Voyons tout d'abord les titres de ce journal. Environ 40 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'Agence française de développement AFD va investir dans le secteur des énergies renouvelables et de l'éducation au Niger. Détail dans quelques instants. Et plus de centaines de scolaires nigériens ont effectué ce matin une marche de recueillement au cimetière musulman de Niamey. Une marche pacifique qui entre dans le cadre des activités du 27e anniversaire de la semaine commémorative du 9 février 90. À suivre le reportage. Enfin, dans la partie magazine de ce journal, nous irons dans la commune rurale de Makolondi, région de Tillabéri, où une trentaine de villages et hameaux ont décidé d'abandonner la pratique de l'excision. Bonsoir à tous. L'Agence française de développement AFD va investir au Niger environ 40 milliards de francs CFA qui sera destiné au développement des infrastructures, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et à soutenir la politique sectorielle d'éducation au Niger. Cet accord a été signé par le directeur général adjoint de l'AFD, Philippe Baudin, à l'occasion de la visite du Premier ministre à Brigirafini à Paris, en France, le 7 février dernier. Les détails avec Rahilatou Soumana.
L'AFD relève dans un communiqué du 14 février dernier que le programme dénommé Jeunesse d'IFA va être financé à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un projet d'insertion sociale et professionnelle des jeunes à court et plus long terme pour relever le développement de la région affectée par une crise liée à la présence de la secte Boko Haram. La mise en œuvre sera exécutée par le groupement CARE, Aide et Action, plan international associé aux partenaires locaux. Logitech, Arène et Karkara. Toujours dans le communiqué, l'AFD annonce son engagement à cofinancer aux côtés de la Banque mondiale le programme Kandaji lancé depuis 2008 par un prêt de plus de 32 milliards de francs CFA. L'objectif du projet de cette centrale hydroélectrique est d'augmenter et sécuriser la production en énergie électrique et selon M. Philippe Baudin, directeur général adjoint de l'AFD, s'engage aux côtés des autorités nigériennes pour assurer le succès de ce projet.
Le président du conseil d'administration du groupe Areva, Philippe Varin, est en visite de travail au Niger. Il a été reçu en audience mardi dernier par le président de la République, Issifou Mahamadou. Au terme de cet entretien, plusieurs questions relatives aux questions d'Areva au Niger ont été abordées par les deux personnalités. Quelle analyse peut-on faire sur cette visite du PCA d'Areva au Niger? El Hadja Idi Abdou, membre de la société civile nigérienne, explique au micro de Gungou Mahaman Dantani.
Je pense qu'il est venu pour probablement négocier le Niger pour un certain nombre dont ce qui s'est passé est bien saisi entre les mains d'Areva appartenant à l'État du Niger et surtout venir et chercher de voir comment maintenir la convention qui a été signée il y a 2 ou 3 ans, la coopération entre le Niger et Areva et surtout je pense qu'il doit des explications par rapport aux avoirs du Niger entre les mains d'Areva qui ont été saisis. Je pense que c'est là qui motive son déplacement ici à Niamey.
Plusieurs centaines de scolaires nigériens ont manifesté ce matin dans les rues de Niamey avant de se retrouver au cimetière musulman. Une marche pacifique qui rentre dans le cadre des activités du 27e anniversaire de la semaine commémorative du 9 février 90. Quels sont les objectifs et les raisons de cette nouvelle marche repose dans ce reportage de Tarnan Foudey Ahmed.
Ils sont nombreux à répondre présents ce matin au cimetière de Yantala où reposent les militants de l'ISN tués le 9 février 90. Abba Abdelmajid, un ancien cadre de l'ISN, accompagne les manifestants. Il nous explique les raisons de cette marche dite de recueillement.
L'objectif, c'est pour venir leur rendre un hommage mérité et surtout prier le bon Dieu à ce que leurs âmes reposent en paix et montrer aussi à la famille que jusqu'à présent, les camarades sont toujours en train de réclamer la justice pour ces militants.
Abdelmajid croit encore à la justice et demande à nouveau aux autorités actuelles qui en majorité sont les anciens cadres de l'ISN de faire la lumière sur cette affaire.
Même pas le ministre de la Justice. Presque tout le gouvernement est animé par des anciens cadres de l'ISN qui défendaient ses valeurs avec ses mêmes camarades de 1990. J'interpelle tous les anciens cadres qui sont au niveau du gouvernement de revenir pour expliquer clairement au dossier du 9 février qu'en est-il de cela.
Pour Sita Hamidou Djabri, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, la reprise récente d'une enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara par les autorités judiciaires au Burkina Faso doit servir d'exemple.
Il faut qu'on continue d'abord à réclamer justice. Et nous gardons espoir. Quand vous prenez la situation au Burkina, Blaise a assassiné Thomas Sankara il y a une trentaine d'années de cela. Aujourd'hui, la justice est en train d'être faite. Nous pensons qu'un jour ou l'autre, à travers nos luttes, la justice sera faite. C'est également d'appeler la classe politique de pouvoir s'inscrire dans la logique de satisfaire les aspirations profondes du peuple nigérien et des scolaires en particulier.
Une soirée culturelle clôturera ce soir au palais des congrès de Niamey les célébrations du 27e anniversaire des événements du 9 février 90.
Nous restons toujours dans le secteur de l'éducation. Dans une déclaration conjointe faite ce matin à Niamey, le CINASEB et la cause Niger appellent leurs militants à boycotter l'opération d'évaluation des enseignants que le ministère de l'enseignement primaire envisage d'effectuer dans les prochains jours. Munkela Halidou, secrétaire général du CINASEB, au micro de Asmana China.
C'est une évaluation qui est contraire aux dispositions réglementaires, notamment le statut de la fonction publique et le statut particulier des enseignants. Mais mieux, c'est que quand vous rentrez en profondeur de cette note circulaire, vous allez voir que le ministre a demandé une condition de dossier. Comme si on veut nous amener à un autre concours ou à un autre examen. Dieu seul sait aujourd'hui ce qu'ils ont comme intention après ce test-là. Voilà pourquoi nous avons dit on boycotte en tout cas cette évaluation jusqu'à ce que cette disposition vienne cadrer avec les dispositions réglementaires en vigueur de notre pays. Et nous l'avons dit, nous n'avons pas peur d'être évalués parce que l'enseignant a toujours été évalué. L'enseignant continue à être évalué chaque jour que Dieu fait. L'enseignant est évalué par son directeur d'école. L'enseignant est évalué par le conseil. L'enseignant est évalué par l'inspecteur. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'évaluation qui nous fait faire. La manière qu'ils veulent nous imposer à être évalué, c'est ce que nous avons rejeté en bloc. Et c'est tous les syndicats du secteur qui se sont mobilisés, en tout cas pour défendre cette position de rejet de cette évaluation pour le mois prochain.
Munkela Halidou, secrétaire général du CINASEB. À la demande de la direction régionale de l'enseignement secondaire de la région de Niamey, une inspection est en cours au niveau des établissements de l'enseignement public en vue de démasquer et chasser les scolaires en situation irrégulière. Selon le directeur régional de l'enseignement secondaire, Zakari Hima, cette inspection a permis de mettre à nu plusieurs réseaux de fraudeurs, tant au niveau des scolaires que des responsables d'établissements. On l'écoute.
Il y a plusieurs manières que ces fraudeurs ont utilisé. Il y en a qui imitent carrément les signatures de nos agents chargés de faire les transferts au niveau des DDS et des inspections pour avoir des transferts et aller s'inscrire au niveau de certains établissements. Et on est en train de les chasser. On a déniché beaucoup. Je prends ce qui fait la vague aujourd'hui, c'est le lycée Kassai. On a trouvé des centaines rien qu'en terminale. Et l'établissement est en train de se vider parce qu'il faut les faire partir. Dès lors qu'on a fait partir même des responsables qu'on a soupçonnés appartenir à ces réseaux ou tu n'ont pas été assez vigilants pour contrôler leurs effectifs. Ces élèves candidats, avant même qu'il n'y ait la clôture, on les a tous invités. Un message est passé au niveau de l'ensemble des établissements pour qu'ils aillent s'inscrire comme candidats libres. Donc il y en a qui ont accepté, qui sont partis d'eux-mêmes s'inscrire comme candidats libres. Et la situation du BPC aussi est en train d'arriver. On les a invités à préparer leur dossier pour venir le déposer en tant que candidat libre. Et nous allons fouiller dans les listes pour que tous ceux qui sont irrégulés, qui n'ont pas un papier en bonne et due forme, ils ne se présenteront pas comme candidats officiels.
Des propos recueillis par Mokhtar Hamadou. Autre aspect de cette édition, depuis plusieurs jours, la population de Niamey fait face à des coupures intempestives d'électricité. Des coupures qui ne sont pas sans conséquence sur le quotidien des consommateurs. D'où la réaction de l'Association de défense des droits des consommateurs qui parle d'une probable privatisation de la Nigelec dans les mois à venir. Maman Nouri, président de l'ADDC Ouadata.
Ce qui nous surprend, c'est qu'on n'est pas encore en période de chaleur. C'est en période de froid où il y a une sous-utilisation de l'électricité, de l'énergie électrique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la plupart des gens n'utilisent pas la climatisation, n'utilisent pas les ventilateurs parce que c'est une période de fraîcheur. Alors on se pose la question, en ce moment il y a coupure d'électricité et si la chaleur arrive ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus de la moitié, sinon presque toute la ville de Niamey n'aura pas d'énergie. Quel est le problème ? Donc là aussi, il faut que la région communique sur le véritable casse-tête qu'ils ont. Les responsables sont en train de jouer le jeu pour donner raison à la rumeur qui circule, c'est-à-dire qu'on veut privatiser la Nigelec. Et si on veut privatiser la Nigelec, et la pratique la plus courante, on fait en sorte que la société qu'on veut privatiser, en tout cas elle s'agenouille, on montre son incapacité à fournir des services. Et on va continuer à les interpeller, que ce soit par les voies des médias, mais aussi par les écrits, par la procédure administrative, c'est évident.
À noter que la Nigelec que nous avons contactée affirme qu'elle fera un communiqué de presse au moment opportun, mais pour l'instant, elle se réserve de tout commentaire. Un mot de culture dans cette édition. Hier soir, le ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale a annoncé l'organisation d'un téléthon pour la collecte de fonds pour soutenir les 5 cinéastes qui représenteront le Niger au Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou Fespaco. Aïcha Makikidi, réalisatrice du film Arbre sans fruits, l'un des films retenus en compétition et membre du comité d'organisation de ce téléthon au micro de Diallo Mariama.
On organise un téléthon qui va permettre de projeter tous les films qui sont sélectionnés au FESPACO pour faire déjà des projections, une projection VIP à la Blue Zone, à la salle Canal Olympia, qui va se passer le vendredi et à partir de 19h pour le VIP, mais en amont, il y aura aussi d'autres projections et grand public. Et les samedis, il y aura la projection grand public au niveau du Palais du Congrès. Donc, tout ce qu'on a mis en place, c'est pour pouvoir voir dans quelle mesure la population pouvait accompagner tout simplement en achetant un billet à 2000 francs CFA et venir regarder tous ces films-là. L'initiative, elle est louable parce qu'il ne faut pas se dire chaque fois on n'a pas de liquidité. Si on essaie de se mettre autour d'une table, on peut réfléchir, voir comment, sans argent, on peut mettre des idées en place et pouvoir voir dans quelle mesure accompagner et avoir de l'argent.
Nous passons à présent à la partie magazine de cette édition. Cérémonie de déclaration publique hier par 30 villages et hameaux de la commune rurale de Maklondi, région de Tillabéri, d'abandon des pratiques des mutilations génitales féminines. Cette activité menée par l'ONG Coniprat en collaboration avec l'UNICEF rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre l'excision du 6 février 2017. Suivez le reportage de Diallo Mariama Kenda.
Aujourd'hui, nous allons enterrer tout ce qui est canif, couteau, lame et peau traditionnelle, d'où ils ne ressortiront plus jamais.
Tour à tour, sous un soleil de plomb, la représentante des femmes, le représentant des chefs de famille, le représentant des chefs religieux, des chefs coutumiers, ainsi que des villages, ont prononcé de façon solennelle avoir abandonné à jamais l'excision des filles. Les raisons évoquées sont surtout les conséquences de cette pratique ancestrale. Madame Lampo, mère de 3 enfants, âgée de 35 ans, revient sur ce souvenir combien douloureux, selon elle, et qui lui a laissé des séquelles.
Elle avait 14 ans. À sa grande surprise, elle était sur son lit, en train de dormir. On l'a réveillée de dire de venir. Elle s'est demandé où vous pouvez m'amener. Elle dit de suivre seulement. Ils l'ont amenée dehors. Ils ont fait clôture avec des sucres. Et dans ça se trouve l'exciseuse. Elle n'a même pas eu le temps de voir qui va l'exciser. Depuis le jour-là, c'est pas comme avant. Comme au moment où elle n'était pas excisée, elle avait le désir sexuel. Mais maintenant, quand on l'a excisée, maintenant, elle n'a pas ce désir-là.
20 villages de cette même commune ont, il y a 4 ans de cela, déclaré avoir abandonné cette pratique. Aujourd'hui, cette décision sera plus suivie, a déclaré le chef de village de Mouspaga, Bawaba. Cette fois, les autorités judiciaires sont aussi concernées.
Nous avons abandonné l'excision parce que l'hémorragie qu'elle entraîne chez certaines femmes peuvent s'aggraver et devenir des problèmes lors des accouchements. Désormais, si l'on découvre une personne qui pratique l'excision clandestinement, elle sera arrêtée. Nous, les chefs de village, nous avons été unanimes pour dire que c'est une pratique néfaste. Donc, nous allons surveiller de près et dénoncer tous ces pratiquants clandestins.
Selon la représentante de l'UNICEF au Niger, ce sont environ 5000 enfants de moins de 18 ans vivant dans les villages concernés qui sont désormais protégés contre toute forme de violence. Cependant, lors de cette cérémonie, nous n'avons rencontré aucune exciseuse repentie. Le Coniprat a affirmé que le processus par lequel était trouvée une exciseuse relève du charlatanisme et que certaines viendraient du Burkina Faso. Diallo Mariama Kenda, Studio Kalangou.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.